Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Il est 9h40 sur France Inter. L'instant M est au taquet ce matin.
Vous coupez ?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
Pensez donc, lorsque nous avons commencé l'Instant M, il y a tout juste 4 ans, Netflix débarquait sur le marché. Son patron, Reed Hastings, disait à qui voulait l'entendre que la télé était mourante et que Netflix se chargeait de l'achever. La France, alors, se tâtait et demandait à voir. Pensez donc, remontez le temps. 10 ans en arrière, pas plus. Google n'était qu'un moteur de recherche. Facebook, un réseau social. Amazon, un supermarché en ligne. Et Apple, un gourou qui vendait des iPhones. Aujourd'hui, ces superpuissances numériques se sont lancées dans une bataille mondiale. Celle de la vidéo à la demande. À l'image de Netflix qui vient, tenez-vous bien, de remporter le Lion d'or à la Mostra de Venise pour un film jamais sorti en salle. Ce n'est plus la guerre des écrans. Ouh là là, non, c'est fini ça, la guerre des écrans. Mais la guerre à ce qu'on regardera dedans. Invité de l'Instant M, YouTube, filiale de Google, qui elle aussi se met à produire des séries.
L'Instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Bonjour Justine Rist.
Bonjour Sonia.
Soyez la bienvenue, vous êtes directrice des partenariats pour YouTube et pour l'Europe du Sud, c'est-à-dire la France et puis tous les pays, on va dire, en dessous de la Loire.
Exactement.
Sur la carte. Je précise que vous avez à votre actif 10 ans de télévision chez Endemol, Grande Période, Stéphane Courby, Arthur, Virginie Calmels, etc. Vous avez vu naître les débuts de la Starac Academy et ça, c'est pas rien. Ensuite, vous avez été directrice du développement pour Twitter en France, à l'époque où c'était tout minuscule. Et aujourd'hui, YouTube, on va en parler avec vous parce que YouTube a lancé discrètement un YouTube Premium, 12 € d'abonnement par mois, c'était là, au printemps. Toutes les vidéos YouTube sans pub. Parce que mes enfants avalent des kilomètres de publicité en regardant des YouTubeurs, évidemment. Donc toutes les vidéos YouTube sans pub, un vaste catalogue de musique à écouter. Pas à regarder, à écouter, comme sur Deezer ou Spotify, et des contenus originaux, comme ces deux nouvelles séries dont on va parler aujourd'hui dans un instant. Je vous présente Xavier Delaporte.
Bonjour,
voilà,
bonjour.
Le nom de la chronique de Xavier Delaporte, c'est La Fenêtre. Et Xavier va ouvrir sa fenêtre sur un vague à l'âme, celui de l'homme face aux algorithmes de la machine. Voilà, alors un petit mot d'abord sur l'actu des médias. J'arrive à vous, Xavier, tout de suite. La cérémonie des Emmy Awards, les Oscars de la télévision américaine, a eu lieu cette nuit à Los Angeles. Meilleure série dramatique ? Encore et toujours Game of Thrones, 7e saison de la série d'HBO. Mais l'événement, c'est la quantité de prix raflés par The Marvelous Mrs. Maisel. Voilà, The Marvelous Mrs. Maisel, meilleure comédie, produite par qui ? Eh ben, produite par Amazon, dont je vous parlais il y a 2 minutes, cet ancien supermarché en ligne. Et ce n'est pas la première fois, évidemment, qu'Amazon est récompensé aux Emmy. Voilà, ça fait de la matière, hein, Justine Rist, comme introduction. Xavier Delaporte, oui, la fenêtre.
Longtemps, ouvrir YouTube sur mon ordinateur m'a fait sombrer dans une profonde mélancolie. Pas à cause de ce qu'il y a dans YouTube, il y a de tout dans YouTube. Ce qui me faisait tomber dans la mélancolie, c'est ce que me propose l'algorithme de recommandation de la plateforme. Ces vidéos qui sont choisies automatiquement en fonction de ce que j'ai regardé lors des dernières connexions sur le principe de « puisque vous êtes intéressé par ça, vous devriez être intéressé par ça aussi ». Pourquoi ? Quand j'ouvre YouTube, apparaissent le top 11 des cartons rouges les plus célèbres du foot, les meilleures vannes de Baffy, une anthologie de bagarres de rue en Russie ou le dernier clash d'Éric Zemmour. Pourquoi on ne me propose pas des vidéos du Collège de France ou du chant grégorien ? Parce que l'algorithme me connaît. Il sait ce sur quoi je clique, ce que je cherche, ce que j'aime vraiment. Il me connaît mieux que je crois me connaître. Alors, les algorithmes de recommandation, j'ai parlé de celui de YouTube, mais on pourrait dire la même chose de ceux de Facebook, d'Amazon ou de Spotify, ont une fonction. Sous couvert de nous faciliter la vie, ils visent à nous garder sur la plateforme le plus longtemps possible. Enjeu essentiel de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, ainsi nommée parce que notre attention est une denrée hautement monnayable. Mais pour l'usager, ils ont une autre fonction. Ainsi, à chaque fois que j'ouvre Google ou YouTube, j'ai l'impression de tendre un miroir devant mon âme et de lui demander « Algo, oh mon algo, suis-je vraiment aussi nul ?» Oui, me répond-il presque invariablement. Alors, faut-il en vouloir aux algorithmes eux-mêmes? Comme le disait un jour le chercheur Dominique Cardon en parlant de Google Suggest, vous savez, c'est l'algorithme qui, quand vous tapez un mot dans la barre de recherche de Google, vous fait des propositions pour le compléter sur la base des recherches les plus fréquemment effectuées par les internautes et qui, pendant longtemps, dès qu'on tapait un nom propre, ajoutait automatiquement et invariablement juif à tous les noms propres, comme le disait ainsi Dominique Cardon, ce n'est pas Google qui est antisémite, mais les gens qui tapent dans Google qui sont obsédés par les juifs. On peut changer cela. Ainsi, on a demandé à Google de modifier ce geste pour que juifs n'apparaissent plus automatiquement. Mais est-ce vraiment mieux de faire comme si cette obsession française n'existait pas? Faudrait-il que, même si j'ai passé 2 heures à mater des vidéos de foot dans YouTube, l'algorithme me propose un concerto de Mendelssohn plutôt qu'un best-of de Kylian Mbappé? Faut-il cacher ce que nous avons au fond de nous-mêmes? Peut-être. En tout cas, c'est une question qui est régulièrement posée aux algorithmes. Alors, en attendant qu'elle soit tranchée, cette question, je propose autre chose. Il faut, je pense, affronter la recommandation. Pas forcément y souscrire, quoique ça pourrait être assez drôle de commencer à faire tout ce que propose l'algorithme, mais l'affronter, c'est-à-dire regarder le miroir dans les yeux, accepter l'image qu'il donne de moi. Je sais que cette image n'est pas la seule, que le miroir a ses déformations, et d'ailleurs, si je ne m'abuse, on ne connaît pas le code source de l'algorithme de recommandation de YouTube, donc on ne sait pas comment il nous déforme. Mais il dit quelque chose, un peu comme un rêve. Parce que, pour ma part, par exemple, j'ai un inconscient super nul. Et quand je me souviens de mes rêves, je vous promets, c'est vraiment hyper bas de gamme. Par exemple, je rêve que je croise Thierry Henry dans une boîte de nuit, qu'on a les mêmes chaussures et qu'on devient copains, ou alors que je fais l'amour au bord d'une piscine avec une très très grosse femme et que c'est super. Mm-hmm. Et pourtant, il faut admettre que ça dit quelque chose de moi. Alors, j'ai décidé de regarder ce que me recommande YouTube avec une curiosité indulgente, comme une sorte d'inconscient élémentaire que me donnerait à contempler la machine. Et depuis, ça va beaucoup mieux.
Alors, si vous au lit aussi, vous voulez aller beaucoup mieux. Si
vous, vous au lit.
Vous aussi, oui.
Très beau lapsus.
Très beau lapsus. Voilà, si vous voulez faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de nous, vous réécoutez Xavier Delaporte sur notre appli France Inter ou sur franceinter.fr. Justine Rist, chacun est enfermé dans son miroir et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne voit rien d'autre. Par exemple, moi, YouTube au bureau me permet d'écouter Glenn Gould et Leonard Cohen quand je veux bosser tranquillement. Pour mon fils de 13 ans, c'est un YouTuber qui s'appelle Le Règlement et des types qui jouent à Fortnite. Pour Redouane Tella qui travaille avec nous, c'est des interviews de LeBron James et des vidéos de mecs qui sifflent des milkshakes de 2 litres. À aucun moment, on est amené à découvrir le contenu de l'autre. Là où les médias traditionnels rassemblent, YouTube éclate en réalité. Ça, c'est une réalité.
Je pense que, en fait, sur YouTube, vous avez une diversité de contenu. Sur toutes les thématiques. Et Xavier, par exemple, si vous êtes fan de chants grégoriens, moi je vous invite à juste taper chants grégoriens et je suis sûre que vous allez trouver des chaînes formidables là-dessus qui vous permettent d'ouvrir en fait sur tous les centres d'intérêt. La découverte, elle est aussi transcendée par comment les youtubeurs créent des liens avec leur communauté, comment ils peuvent se recommander entre eux, comment tous les réseaux sociaux autour de YouTube permettent justement de d'amener à cette découverte et progressivement de d'aller au-delà de ce qui m'intéresse ou ce que je connais directement, mais sur d'autres champs, d'autres territoires.
Il n'empêche que c'est assez difficile de sortir de sa bulle. Je vous fais écouter Shape of You, le tube de Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Vu 3 milliards 800 millions de fois sur YouTube, je parle du clip. Moi qui écoute les Moody Blues de Leonard Cohen, jamais on me propose Ed Sheeran. Moi j'ai mis, si j'écoute pas les radios musicales, je peux mettre un an à me rendre compte qu'il y a des milliards de visionnages de ce même clip. Je peux mettre un an. C'est-à-dire que, en fait, la découverte, elle se fait à des échelles extrêmement différentes en fonction de la bulle dans laquelle on est.
Alors, c'est pour ça aussi qu'on a d'ailleurs fait évoluer, on parlait de YouTube Music, cette offre, cette expérience différente par l'abonnement qui me permet notamment sur de la consommation musique d'aller découvrir autour d'un artiste toutes ces déclinaisons. C'est vraiment dans ce but de rentrer dans l'aventure du contenu et d'aller beaucoup plus loin que ce que vous pouvez avoir dans votre radar parce qu'à la radio, vous avez écouté, entendu ce jour-là Ed Sheeran. Et du coup, l'application YouTube Music, par exemple, autour d'un artiste, va vous proposer sa version de concert, son enregistrement de clip.
Et même des covers, c'est-à-dire des anonymes qui chantent comme des casseroles qui
ont énormément de talent.
C'est vrai, parfois on découvre.
Donc c'est ça en fait, c'est une expérience qui, autour d'un contenu qui peut être le haut de l'iceberg, va vous emmener sur tout un territoire beaucoup plus large, et derrière vous faites votre propre chemin.
Alors le cas de la musique, c'est extrêmement intéressant parce que en réalité YouTube est devenu une source d'écoute de la musique phénoménale et planétaire depuis très longtemps, et c'est intéressant parce que YouTube est associé à l'image et pas tellement au son, c'est ce que vous essayez là justement de marketer, de corriger et de commercialiser. C'est ça qui est extrêmement intéressant parce que quand on dit vue sur YouTube, c'est-à-dire Despacito, ce clip relativement nul, il faut bien le dire, et cette chanson relativement nulle, il faut bien le dire, 5,5 milliards de vues sur YouTube. Vue aujourd'hui, Justine Ritz, ça veut dire écouter.
Alors vue veut aussi dire effectivement entendu.
Entendu.
Vous avez 90%.
Il y a un glissement sémantique, c'est super intéressant.
Ce qui est intéressant, Xavier, vous parlez de l'attention.
Ouais.
90% des vidéos sur YouTube sont vues avec le son. Les utilisateurs sont hyper captifs. Et en fait, on a fait évoluer cette offre vers une logique à l'abonnement pour justement répondre à cette demande qui était « je souhaite utiliser hors connexion ou en arrière-plan une série de musiques, une série d'artistes. »
C'est ça, donc
une
veut dire que je peux continuer à envoyer des textos.
Je peux utiliser une application en écran principal et avoir en fond
de
la musique. Je peux aller courir et écouter toutes les séquences de l'instant M. Et on répond vraiment à cette demande.
Parce que quand on dit 5,5 milliards de vues pour le clip de Despacito, ça ne veut pas dire que les trois quarts de l'humanité l'ont regardé. Ça veut dire qu'un petit nombre de gens...
Bien sûr, on parle de vues, on ne parle pas de... d'utilisateurs uniques qui ont vu...
Mais se servent de YouTube pour écouter de la musique et pour écouter un tube 100 fois d'affilée ou 150 fois d'affilée. C'est ça l'histoire.
Bien sûr.
C'est ça l'histoire.
Ça correspond à ça.
Voilà.
Non, c'est l'engouement que peut générer ce genre de contenu. Et du coup, derrière, comment est-ce qu'on donne la part belle à tous ces univers autour? Et c'est la même chose pour YouTube Premium. Donc aujourd'hui, c'est un jour important. Vous savez que YouTube Premium, c'est aussi cette logique d'un YouTube, 100% de YouTube sans la publicité, avec ses fonctionnalités qui sont je peux écouter hors connexion, je peux écouter en arrière-plan, j'ai accès à des contenus originaux.
Alors justement, on en parle de ces contenus parce qu'ils arrivent demain sur YouTube Premium uniquement pour les abonnés. Je rappelle, c'est 12 € par
11
mois.
11,99 €,
pardonnez-moi. Voilà, alors donc une offre de séries originales réservée aux abonnés. Vous lancez des séries françaises telles que Groom, par exemple, l'histoire d'un petit gosse de très riche qui fait rien d'autre qu'organiser des énormes fiestas dans des gros hôtels, recadrage par son père.
Ça va, il est pas mort.
Non, il a juste un bras, les deux jambes et 8 côtes cassées.
Et ça t'amuse?
Non, ça m'étonne pas. Tu sais faire que ça t'amuser. Après tout, c'est ma faute, hein.
Je t'ai tout donné et je t'ai laissé faire le petit con pendant 30 ans.
Tu m'as foutu la honte pour la dernière fois. À partir d'aujourd'hui, t'as un an pour apprendre la vie. Pour apprendre à bosser et pour apprendre à te démerder tout seul. Et si tu y arrives pas, t'as plus d'héritage et moi j'ai plus de fils.
Comment ça, si j'arrive pas, à quoi? Je comprends pas.
À bosser, trou du cul! Tu m'as foutu un groom à l'hôpital, tu vas le remplacer.
Voilà, je dirais que c'est un mélange de Palace et de Brice de Nice, peut-être de H pour prendre des références télé d'il y a très longtemps. Ouais. Quand un géant mondial du web s'implante avec une offre payante sur un marché local, Justine Ritz, est-ce qu'il y a nécessité à produire des programmes locaux? Puisqu'on voit bien que les géants de la musique, Deezer, Spotify, etc. font exactement la même démarche.
Alors, je précise un point important. Aujourd'hui, lorsque vous abonnez à YouTube Premium, vous avez déjà accès à une soixantaine de productions originales qui viennent pour la majorité des États-Unis, qui sont dans les thématiques, dans les genres de la comédie, de la fiction, du documentaire, des formats qui ont très bien marché, par exemple Je suis Katy Perry ou Demi Lovato dans son quotidien. On prévoit de lancer 50 nouveaux formats, nouveaux programmes d'ici l'année prochaine, avec des collaborations prestigieuses comme Georges Clooney en tant que producteur qui va travailler avec nous. Donc, quand je m'abonne à YouTube Premium, j'ai accès à ce catalogue de contenu, qui d'ailleurs va de 15 minutes.
Alors, pourquoi de la série française?
Et pourquoi de la série française? Justement, parce que, c'est important de pouvoir tester sur un marché comme la France comment peuvent fonctionner ou la réaction du public à des productions domestiques, vraiment locales. Parce que on travaille très étroitement avec tous les talents. Et là, la voix que vous entendiez, c'était la voix de Jérôme Niel. Jérôme Niel, c'est les tutos de Jérôme dans Canal+, sur
Alors,
Canal+.
Alors, justement, en fait, vous allez puiser dans la culture sur YouTube, c'est-à-dire vous allez puiser du côté de Golden Moustache qui appartient aujourd'hui à M6, de Studio Bagel qui appartient à Canal, mais en réalité, ce sont des youtubeurs historiques. Donc on puise dans cette veine-là, dans ce savoir-faire-là et aussi dans leur univers humoristique.
Historique sur YouTube, mais aussi ce sont des talents qui aujourd'hui font du théâtre, font de la fiction. Mmh. Et d'ailleurs, Les Emmerdeurs, qui est la deuxième série, la deuxième production, tout cela, les deux vont être disponibles à partir de demain sur YouTube Premium, a été en sélection, en compétition du Festival de la Fiction TV à La Rochelle. Donc ça s'est passé ce week-end, dans le format 26 minutes. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est
exactement comme Netflix vient de rafler un lion d'or à Venise.
On voit les talents qui évoluent. Et vous le disiez, en fait, c'est l'approche par le contenu et non plus par le type d'écran.
Alors, finalement, YouTube, donc plateforme gratuite d'échange vidéo, bourrée de pubs, on l'a dit, hors abonnement, est-elle devenue un média ? C'est-à-dire, désormais, vous proposez des contenus signés YouTube. Ça signifie des choix, pas seulement du marketing. Ça signifie une ligne éditoriale, en réalité. Au-delà des séries d'humour, est-ce que vous pouvez imaginer des émissions d'actu ? Twitter en propose, par exemple, aux États-Unis, des shows d'actu le matin. Facebook en diffuse en live des émissions faites sur mesure, par exemple par Anderson Cooper, star de CNN. Est-ce que YouTube peut aller beaucoup plus loin que la série pour ados ?
Alors, déjà, on n'est pas, forcément que pour des séries pour ados. Le cœur de cible de YouTube Premium, c'est du 18-35 et on élargit vraiment plus la cible.
Mais est-ce que vous êtes capable de prendre position ? Est-ce que vous allez affirmer une ligne éditoriale ?
Non, c'est important. YouTube n'est pas un média.
N'est pas un média.
YouTube est une plateforme. YouTube n'est pas un éditeur de contenu. Quand on a fait ces approches, je vous explique comment on a travaillé en fait pour faire ces formats, et notamment Groom et Les Emmerdeurs. On a fait un appel à projet.
Ouais.
Et ensuite, on a laissé une liberté de ton vraiment très large aux propositions pour venir nous suggérer des formats, des scénarios, des fils conducteurs, etc. Donc, et cette partie-là, c'est une partie infime de YouTube, puisque vous savez que, je vous donne un chiffre, YouTube c'est 400 heures de contenu posté chaque minute.
Chaque minute.
Donc
dans le monde.
Dans le monde. Mm-hmm. Dans le monde. Donc c'est un territoire qu'on explore. Ces productions-là sont effectivement exclusivement faites pour YouTube, mais elles sont portées par les talents eux-mêmes. Et donc voyons.
Moi, je vous parle de votre partie réservée aux abonnés. Ouais, où là, c'est des contenus que vous avez choisis. Vous avez choisi ces projets-là et pas d'autres.
Ouais.
Donc là, YouTube n'est pas un média. Là, YouTube n'est pas en train de devenir totalement responsable de ses choix, des valeurs qu'il affirme, du discours qu'il porte finalement vis-à-vis d'un public.
Non, mais là, vous avez raison. C'est que on va travailler avec les talents, les producteurs, pour avoir des contenus qui vont répondre soit à une thématique du monde, par exemple Cobra Kai, qui est le revival de Karate Kid.
Voilà, la prise de guerre de YouTube.
Ouais. Avec les mêmes acteurs.
Ouais.
En fait, comment on a travaillé là ? On sait que c'est une tendance très recherchée. Il y a une communauté énorme de fans de Karate Kid sur YouTube. Et donc, on a travaillé ensemble avec le producteur pour dire qu'est-ce qu'on pourrait raconter comme histoire autour de ça.
Bon, vous êtes encore dans un discours très marketing. On va voir si petit à petit, vous allez être dans un discours plus éditorial. Une des possibilité donc réservée à vos abonnés de YouTube Premium, c'est d'avoir accès à tous les contenus YouTube sans pub. Alors moi, ça me touche puisque, évidemment, on n'a rien trouvé de plus malin que de supprimer la pub dans les programmes pour enfants sur France Télévisions. Et pendant ce temps-là, nos enfants, ils sont sur YouTube, les enfants de tous les âges, de toutes les classes d'âge, de tous les pays, on ne peut pas aller contre, et ils s'enfilent des kilomètres de pub. Est-ce que ça dérange vos consommateurs d'avoir de la pub ? Ou pas du tout ? Sincèrement.
Je pense qu'il y a tous les types de souhaits de consommation. C'est pour ça un peu qu'on teste aussi ce modèle à l'abonnement, qui est une alternative. Et vous l'avez dit, bien évidemment, le YouTube classique dans un modèle gratuit, mais avec de la publicité, parce que ça, c'est le modèle économique au passage de YouTube.
Bien sûr.
Qui, au passage, reverse plus de la moitié de tous ses revenus aux éditeurs de contenu. Ça correspond à des usages différents. Et on parlait de la musique tout à l'heure. Effectivement, d'avoir une expérience ininterrompue de la musique quand je veux écouter l'intégrale de Ed Sheeran,
c'est exaspérant. Le spot de pub au milieu d'Ed Sheeran et entre chaque chanson, c'est exaspérant. Mais en même temps, ça n'empêche pas les gens de regarder 5,5 milliards de fois Despacito sur YouTube.
Non, mais c'est pour ça que on fait cette nouvelle approche, une expérience différente qui va pouvoir cohabiter avec l'expérience classique, gratuite, mais avec la pub. Mm-hmm. Et puis, on va bien voir comment les deux évoluent. Là, vraiment, YouTube, on répond à un besoin qui était ce besoin de je veux tester de manière ininterrompue en hors connexion, etc.
Merci beaucoup Justine Rist. Alors demain, donc pour les abonnés, uniquement pour les abonnés, Groom et Les Emmerdeurs, ce sont donc deux séries françaises sur YouTube Premium.